électeur qui est responsable personnellement pour ça, mais de la façon dont ils ont mis, les électeurs ont mis les cartes, ce ne sera pas facile.
Le travail est titanesque. Concilier l'inconciliable.
La Belgique en question. Un documentaire en 3 épisodes proposé par Arnaud Reussen.
Ils ne veulent pas le confédéralisme, mais qu'est-ce qu'ils veulent alors ?
Deuxième chapitre, tant que le lion aura des dents.
Tant que le lion pourra griffer, tant qu'il aura des dents. Ce sont les derniers vers du Vlaamse Leeuw, écrits en 1847, en pleine émergence du mouvement flamand. Un hymne, ici repris en chœur par les militants de la NVA au soir d'une défaite électorale, pourtant. Mais il faut dire que ce 26 mai 2019 offrait aussi, grâce aux résultats du Vlaams Belang, un score historiquement haut au parti nationaliste flamand.
Vlaanderen kiest Vlaams Nationaal duidelijker dan ooit tevoren.
Les nationalistes et indépendantistes flamands plus haut que jamais, un résultat qui ne lasse pas d'étonner l'éditorialiste en chef du soir, Béatrice Delvaux.
Comment le nationalisme flamand est resté aujourd'hui si important comme facteur de division, de revendication ou de repli pour les citoyens, alors que, très objectivement, la Flandre a gagné tous ses combats. Que la nation Flandre est victorieuse. Pourquoi, aujourd'hui, il y a une telle frustration ? Je ne comprends pas, en fait.
Alors justement, dans ce deuxième épisode, on va prendre le temps d'essayer de comprendre, en retournant aux racines de ce nationalisme, en déroulant le fil d'une histoire et de son instrumentalisation de part et d'autre de la frontière linguistique. Et pour commencer, on va rembobiner le temps.
10 mai 1940.
Non, on va même retourner bien plus loin que cela. Voilà, arrêtons-nous là, à la muette de Portici et son air de l'amour sacré de la patrie. Cet opéra, symboliquement considéré comme le déclic de la révolution de 1830 qui conduira à la création de la Belgique. 1830, la révolution qui chasse les troupes hollandaises de Guillaume d'Orange et qui va installer au pouvoir une bourgeoisie, surtout francophone, et très tournée vers la France. Et même si les premiers textes constitutionnels consacrent la liberté linguistique, dans les faits, le français est la langue dominante en Belgique, la langue du pouvoir, la langue de l'administration et de la justice. Et c'est une des raisons bien légitimes de l'émergence d'un mouvement flamand, comme l'explique Chantal Kestelhout, chercheuse au CGS et aux archives de l'État.
Ce mouvement flamand qui naît au XIXe siècle, c'est un mouvement qui est avant tout un mouvement linguistique. Et ces revendications sont des revendications qui aujourd'hui nous paraissent mais complètement évidentes, complètement légitimes. C'est le droit d'être jugé, le droit d'être administré, le droit d'avoir un enseignement dans sa langue. Tant entendu que les recensements linguistiques qui ont lieu encore à ce moment-là tous les 10 ans ont montré dès 1846 qu'une majorité d'habitants de ce pays se servent d'un dialecte flamand. Et donc il est parfaitement légitime de revendiquer pour cette langue des droits. Et donc au fond, le premier combat, ça va être de rendre cette Flandre bilingue. Au fond, toute l'administration fonctionne encore en français, la justice fonctionne en français. Donc c'est vraiment de donner une place à côté.
Une place à côté du français. On est donc encore très loin à cette époque de la revendication d'une région flamande, voire d'un État flamand. On peut même considérer d'ailleurs que le mouvement flamand à son origine, au XIXe siècle, était un mouvement profondément belge.
Au fond, on peut dire que tant les sentiments wallons que les sentiments flamands sont des enfants de la Belgique. Au départ, c'est un sentiment linguistique. Il s'agit de donner à cet État belge une identité qui ne soit pas la France. Et donc, cette identité passe par le bilinguisme. Mais donc, ce premier mouvement flamand est profondément ancré dans la réalité belge.
Et ça, c'est ce que nous confirme aussi l'historien flamand Marc Rennebeau, auteur d'une histoire de la Belgique. Il est aussi chroniqueur au Standard.
L'idée est là qu'il y a toujours cette France dont on se méfie, il y a toujours des révolutions et des coups d'État et n'importe quoi. Il y a une grande peur qui va continuer jusqu'à la guerre franco-allemande, 40 plus tard, que la France va essayer d'annexer la Belgique, puisqu'elle l'avait déjà fait. Alors, il fallait que la Belgique devrait prouver que il y avait une raison pour laquelle elle était là. L'idée était là que la Belgique était quelque chose de particulier, quelque chose de différent de la France en tout cas, et cette différence, c'est l'aspect flamand. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, mais qui est représenté par Maeterlinck, Rodenbach, tous ces écrivains flamands qui écrivaient en français.
C'est donc chez ceux-là, en premier lieu, que va naître ce mouvement culturel flamand avec ce qui ressemble aujourd'hui à un paradoxe.
On pourrait même dire que le mouvement flamand n'aurait jamais existé sans la Belgique.
Mais voilà, au fil des ans, et à l'approche de la Première Guerre mondiale, on assiste à l'émergence d'un nationalisme flamand, dont les revendications vont aller au-delà du bilinguisme, pour une raison de rapport de force.
Quand on a deux langues qui n'ont... Bon, les langues ont des rapports de force entre eux. Quand on a deux langues qui n'ont pas la même légitimité, la même force, qui n'ont pas le même potentiel d'ascension sociale, c'est évidemment toujours la langue qui offre le plus de possibilités de rayonnement qui va l'emporter. Et donc, ce combat, qui au départ est un combat pour rendre la Flandre bilingue, assez rapidement, le mouvement flamand va se rendre compte que c'est un jeu de dupes. Que si on veut, au fond, donner une véritable place à part entière à la langue néerlandaise, celle-ci ne pourra pas coexister avec une langue française à ses côtés. Et donc, c'est un combat qui, petit à petit, va se faire en faveur de l'unilinguisme des régions qui va être consacré par la législation de 32.
Mais ne brûlons pas les étapes. Et arrêtons-nous encore sur un petit événement avant-guerre qui, avec le recul de l'histoire, peut être considéré comme le premier texte fondateur de la conscience wallonne. La lettre écrite par le député socialiste Jules Destré au roi Albert Ier, et dont cette phrase est restée célèbre.
Laissez-moi vous dire la vérité, la grande et horrifiante vérité. Il n'y a pas de Belges.
Un peu plus loin, Jules Destré précise.
Non, sire, il n'y a pas d'âme belge. La fusion des Flamands et des Wallons n'est pas souhaitable et la désira-t-on qu'il faut constater encore qu'elle n'est pas possible. La distinction des races et des langues a pu s'expliquer jadis par la forêt charbonnière. Depuis des siècles, cet obstacle aux communications a disparu et l'interpénétration ne s'est point faite. Des gouvernements se sont usés à cette œuvre vaine et ont cherché à faire reculer soit le flamand, soit le français. La frontière linguistique est restée immuable, attestant la volonté têtue des deux peuples de ne point se confondre.
Deux ans plus tard, deux ans après cette lettre de Jules Destré, à laquelle le roi ne répondra jamais, éclate la Première Guerre mondiale. Et au sortir de celle-ci, une situation très paradoxale.
À la fois, on a véritablement un sentiment belge qui a une légitimité. On voit effectivement les foules qui sont là au sortir de la guerre. C'est aussi bien sûr le soulagement de la fin d'un conflit qui a quand même marqué la société pendant plus de 4 ans. Et en même temps, on voit apparaître un nationalisme concurrent qui ne va cesser de se développer et qui est le nationalisme flamand. Donc, au final, on pourrait se dire que la Première Guerre a à la fois généré, véritablement ancré ce nationalisme belge, que l'État belge a essayé tant bien que mal au XIXe siècle de cimenter, hein, comme tous les États au XIXe siècle, par la création de musées, par l'écriture d'une histoire, par le développement d'une monnaie, de timbres-poste, enfin tous ces éléments qui sont des éléments fondateurs de la nation. Et au moment où ce nationalisme belge est véritablement ancré, apparaît comme tout à fait légitime, il y a ce nationalisme concurrent.
Nationalisme concurrent, nationalisme flamand, pour qui ce premier conflit mondial va aussi marquer un tournant essentiel.
Alors la Première Guerre mondiale, il y a plusieurs aspects. Il y a à la fois l'activisme flamand, hein, qui est un courant très minoritaire, somme toute, mais qui va en quelque sorte profiter, je dirais, de l'occupation allemande pour, au fond, se voir reconnaître des droits que la Belgique, jusqu'alors, ne lui avait pas reconnus. Ce courant va être poursuivi par l'État belge après la Première Guerre mondiale et surtout, il va réussir à se positionner comme victime. Et donc, il va générer une solidarité qui dépasse largement le courant activiste. Et donc, ce courant-là va aussi se nourrir du ressentiment de certains soldats sur le front, hein, ce qu'on a appelé le Front Bewegung, le mouvement du front, et qui va, pour la première fois après la Première Guerre mondiale, créer un parti politique spécifique. Hein, donc jusqu'alors, on avait les deux grands partis historiques, les libéraux et les catholiques, auxquels s'était ajouté à la fin du XIXe siècle le POB, hein, qui n'est pas encore véritablement un parti traditionnel comme les autres. Mais après la Première Guerre mondiale, on va avoir un nouveau venu, qui est un parti qui, pour le coup, s'implante uniquement dans le nord du pays et qui va nourrir ce discours radical anti-belge. Alors ce discours radical anti-belge, il va trouver aussi ancrage à travers les pèlerinages les pèlerinages de l'Isère qui vont se développer après la Première Guerre mondiale, mais pendant longtemps on y retrouve à la fois une partie du monde catholique et une partie du milieu les plus radicaux. Alors les choses vont s'accélérer au début des années 30, ce Front Partei qui a remporté des succès électoraux variables en 1932 va se dissoudre et va venir à sa place en partir de 1933 le VNV, un parti qui va d'emblée être un parti d'extrême droite de type fasciste et qui lui va avoir un discours extrêmement radical.
Le VNV, le Vlaams National Verbond, et son leader, Staff de Klerk, tenant des meetings fascistes, étrangement semblables d'ailleurs à ceux de l'Allemagne nazie, c'est la composante la plus radicale du combat flamingant dans les années 30. Mais on aurait tort de résumer le combat flamand au seul VNV. On a en fait affaire à des tendances très différentes, des plus modérés militants pour une reconnaissance de la langue néerlandaise, au combat plus radical pour l'indépendance de la Flandre et la mort de la Belgique, qui s'enracine à droite, voire à l'extrême droite. Et cette multiplicité du mouvement flamand et la façon dont il sera compris, ou incompris d'ailleurs côté francophone, va peser sur son évolution.
Ce qui va contribuer certainement à la radicalisation, c'est la représentation que l'on va au fond construire. Au fond, le fait qu'il y ait eu ce courant activiste, même si c'est un courant relativement marginal, va permettre au monde politique francophone, après la Première Guerre mondiale, de stigmatiser véritablement toutes les revendications du mouvement flamand. Et ça va se traduire, y compris dans le vocabulaire. On va commencer à parler des flamboches, les revendications de néerlandisation de l'université de Gand, hein, qui est un des grandes revendications du mouvement flamand. On va parler d'université von Bissing, puisque pendant la Première Guerre mondiale, à partir de 1916, il y a eu effectivement une université néerlandisée sous l'égide de l'occupant allemand. Donc il va y avoir une espèce de stigmatisation de l'autre qui va contribuer aussi à la construction de ces identités. Et donc, va aussi nourrir en quelque sorte une espèce de radicalisation. Hein. Au fond, je veux dire, pour comprendre l'évolution du mouvement flamand, il faut aussi prendre en compte la manière dont celui-ci était perçu par les nationalistes belges, par le militantisme wallon. C'est toujours un jeu de dialogue, l'identité, c'est soi et c'est l'autre.
Ce sentiment victimaire, c'est un élément essentiel pour comprendre le mouvement flamand.
Cette victimisation, elle remonte déjà au XIXe siècle. Au fond, on a affaire à une population qui ne peut pas se défendre dans sa langue, donc qui va construire cette identité de victime. Hein. On a tous en mémoire l'épisode de Cook et Goodales condamnés parce qu'ils ne comprennent pas la langue du procès. On a aussi, sur le plan économique, parce que je crois que cet aspect-là est peut-être un peu trop négligé, on a une situation économique qui pousse aussi, au XIXe siècle, des milliers de Flamands à venir travailler dans les mines wallonnes. Et donc, là aussi, ils sont sont perçus un peu comme les pauvres immigrés. Donc là aussi, ça nourrit une certaine forme d'identité et une certaine image de soi et de l'autre. Donc avant même la Première Guerre mondiale, cette identité de victime, elle est déjà là. Alors pendant la Première Guerre mondiale, les événements du front, l'idée qu'il y a plus de soldats flamands, qu'ils auraient été injustement entraînés dans des combats par des ordres qu'ils ne comprenaient pas, que le taux de mortalité serait plus élevé, je dirais que tout ça va s'emboîter. Et donc cette identité de victime va se nourrir progressivement d'autres éléments. L'idée qu'après la Première Guerre mondiale, on continue de refuser qu'il y ait une université en néerlandais à Gand, alors que pourtant ça fait partie du contenu du discours du roi Albert le 22 novembre 1918, le fameux discours où il promet le suffrage universel, il promet l'égalité entre flamands et wallons, et il promet la création d'une université en langue néerlandaise à Gand. Donc cette promesse-là va devoir attendre jusqu'en 1930. Donc les revendications qui sont des revendications anciennes ne sont pas rencontrées. Donc tous ces éléments-là vont s'ajouter les uns aux autres et il va toujours y avoir une espèce d'effet de décalage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une série de revendications vont être rencontrées, à partir de 1930, l'université de Gand, à partir de 1932, l'unilinguisme des régions, une partie du mouvement flamand, l'aile la plus radicale, est déjà un pont plus loin. Et à ce moment-là, pour elle, l'avenir, ce n'est plus seulement l'unilinguisme, c'est le fédéralisme, c'est voir la disparition de la Belgique. Donc il va toujours y avoir des effets de décalage qu'on va voir se reproduire après, avec la création de la Volksunie, avec la création de la NVA, où on est toujours une revendication plus loin dans les courants les plus radicaux.
Reprenons notre histoire là où on l'avait laissée. Le 10 mai 1940, la Belgique est envahie par l'Allemagne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale.
10 mai. L'Allemand préfère une fois de plus à l'attaque de face l'ignominie d'une manœuvre qui se doit d'être d'abord l'immolation de trois pays neutres.
L'occupant allemand, comme il l'avait fait en 14-18, va s'appuyer sur le mouvement flamand. Avec une volonté très claire, y compris d'ailleurs dans le chef d'Hitler, de favoriser les Flamands.
Le premier geste fort qui va marquer cette politique va être la libération des prisonniers de guerre flamands, là où les prisonniers de guerre wallons ou francophones vont passer 5 années en captivité. Donc là aussi, ça va nourrir un ressentiment. Mais en 1940, dans un tout premier temps, l'occupant essaye aussi de s'appuyer sur les élites traditionnelles belges. La démocratie belge est en crise profonde. Et si on peut trouver au sein de ces élites traditionnelles des alliés qui vont permettre de faire fonctionner cet État occupé avec un minimum de troupes d'occupation, un minimum de cadres d'occupation possible, pourquoi pas ? À partir de 1940-1941, ces élites traditionnelles progressivement vont prendre leur distance. Et au fond, qui va d'emblée se déclarer disponible ? Ce sont les partis d'extrême droite, du côté flamand, le VNV, et du côté francophone, le mouvement Rexiste.
Nous vivrons, nous créerons, nous forgerons pour notre patrie et pour notre peuple, un bonheur qui sera l'honneur de nos vies. Camarades, heil au Führer et rendez-vous à la victoire!
Sauf que là où Rex est déjà largement en perte de vitesse au moment où commence la Seconde Guerre mondiale, le VNV, lui, est bien implanté dans le tissu flamand. Et progressivement, au fil de l'occupation, de plus en plus de bourgmestres VNV vont être installés, au point qu'à un moment donné, une commune sur deux, en Flandre, sera dirigée par un bourgmestre issu du VNV. Vient alors, après la guerre, ce que l'on appelle la répression. Ce moment où l'État belge, pour la deuxième fois en un quart de siècle, doit régler ses comptes avec ceux qui ont collaboré avec l'occupant allemand. Et ce qui va se passer à ce moment-là, la façon dont ce sera perçu des deux côtés de la frontière linguistique, va avoir un impact déterminant qui se ressent encore aujourd'hui. Prenons un cas, raconté par le journaliste François Brabant dans le magazine Wilfried, le cas de Léon de Wever, grand-père de Bart de Wever.
Alors Léon de Wever, donc c'est un instituteur, il est membre du VNV. Il est même un des responsables de la section de Mortsel. Alors Mortsel, c'est une commune périphérique d'Anvers, mais c'est pas un nazi convaincu, c'est pas du tout un des grands dirigeants du parti. Mais juste dans les jours qui suivent immédiatement la libération d'Anvers, donc on est à l'automne 44, il se retrouve en prison. Il reste là quelques semaines et au bout d'un moment, le procureur de guerre lui fait passer une audition et lui propose une espèce de marché, un accord qui est proposé très fréquemment aux personnes qui sont des collaborateurs, on va dire, de seconde zone, c'est-à-dire pas de poursuite judiciaire, pas de procès ouais. en bonne et due forme, mais une perte des droits politiques et surtout l'éviction, l'interdiction d'exercer un métier de fonctionnaire. Et dans le cas de Léon de Wever, il était instituteur, il est évincé de son poste dans l'enseignement public à Anvers. Et alors ce Léon de Wever va se retrouver colporteur. Enfin, il se retrouve du jour au lendemain sans emploi, avec une famille de 6 enfants. Et pour survivre, il devient vendeur ambulant. Il fait du porte-à-porte, il vend des encyclopédies notamment et d'autres choses. Et voilà, c'est la déchéance d'un homme qui était instituteur, respecté, surtout, il faut se représenter le milieu du XXe siècle, où déjà instituteur, ça représente quelque chose, et du jour au lendemain, il se retrouve marchand ambulant, et ses enfants, ses petits-enfants diront, toute sa vie, Léon de Wever cultivera la haine de l'État belge.
Des histoires comme cela, il y en a des centaines, et des centaines en Flandre, qui vont renforcer cet ADN victimaire du mouvement flamand.
En fait, ce qu'il y a, c'est que du côté du mouvement flamand, on va justifier la collaboration par, je dirais, un peu les mêmes éléments qu'on a utilisés après la Première Guerre mondiale, ce qui est de dire, au fond, l'occupant nous a donné des droits que l'État belge ne nous donnait pas. Et si nous avons collaboré, c'est au fond au bénéfice de la Flandre. Et donc, on fait l'impasse sur toute une série d'autres aspects de cette collaboration, qui est la collaboration avec un régime fasciste, qui est la collaboration avec un régime qui déporte, qui extermine les Juifs de Belgique. Ces aspects-là, je dirais les aspects qui, aujourd'hui, dans la manière dont on regarde la Seconde Guerre mondiale, nous paraissent les plus lourds, les plus criminogènes, ces aspects-là ne sont pas du tout mis en avant. Et dès 1944-1945, il va y avoir quantité de témoignages qui vont être publiés, circulés, et qui vont véritablement mettre en évidence « nous avons été maltraités », l'image des femmes tondues, l'image des camps d'internement, l'image des résistants de la dernière heure qui se seraient acharnés contre des collaborateurs. Toutes ces images-là, on va les retrouver dans quantité de petites publications, de témoignages personnels qui vont circuler et qui vont, au fond, construire, consolider cette identité de victime.
Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très exceptionnel qui s'est passé en Belgique, et notamment en Flandre.
Marc Renaubot.
C'est que les collabos ont pu, ou les anciens collaborateurs, disons, ont pu contrôler l'image de l'histoire sur la guerre, et notamment sur leur propre histoire. Ça ne s'est passé presque nulle part, sauf en Flandre. Et pourquoi ? Je pense parce que la classe culturelle, qui était une classe intermédiaire entre, disons, l'élite francophone et la population générale, était très motivée par le flamingantisme.
Et donc, se construit cette image très répandue en Flandre jusque dans les années 80 d'une Flandre qui a collaboré mais pour obtenir des droits que l'État belge lui refusait. Et dans le même temps, côté francophone, se construit aussi un mythe qui prend également des libertés avec l'histoire.
Dans le monde francophone, une bonne conscience de soi, où pendant longtemps on néglige somme toute les 8000 francophones qui sont partis se battre sur le front de l'Est. Il y a eu 10 000 flamands, 8 000 francophones. Je dirais que si on les met côte à côte en termes de représentation démographique, ça fait pas une énorme différence. Il y a 0,7% de la population flamande qui a été condamnée pour collaboration, 0,5% du côté francophone, donc ça fait pas une énorme différence non plus. Mais la culture politique que l'on va se construire est une culture politique qui va s'incarner dans les valeurs de la résistance. Alors, dans un premier temps, des valeurs de la résistance à travers le patriotisme, le drapeau tricolore. Et puis, quand ces valeurs-là, progressivement, dans les années 60-70, vont perdre de leur légitimité, on va donner un autre habit, en quelque sorte, à ce combat de la résistance, en le drapant de l'idéologie des droits de l'homme, de l'antifascisme. Et donc, au fond, on va toujours considérer que l'on a incarné le bon combat, et l'autre, celui d'en face, a été celui qui s'est compromis avec l'occupant.
On a donc face à face deux images qui se construisent, en partie vraies et en partie fausses. La Flandre, pendant longtemps, glisse sous le tapis les aspects les plus sombres de la collaboration, et côté francophone, on a cette tendance à coller sur tout le mouvement flamand l'image infamante de ceux qui se sont compromis lourdement avec le régime nazi.
Oui, c'est ça, il y a une espèce de grand égal, mouvement flamand égal collaboration. Et donc, on ne voit pas la nuance, effectivement. Alors, comme vous le dites, pour que ces images fonctionnent, il faut qu'elles soient en partie vraies. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et donc, effectivement, une partie du mouvement flamand s'est engagée dans la collaboration. Du côté des groupements francophones, c'est vrai que la résistance a été beaucoup plus large dans la société francophone. Et donc, ça fonctionne puisque ça s'enracine en partie sur la réalité. Ça fait l'impasse sur une série d'autres aspects. La résistance en Flandre est une dimension qui est complètement marginalisée et pendant longtemps, il va y avoir très peu de recherches, très peu d'éléments. De même, la collaboration dans le monde francophone, c'est un aspect que l'on va laisser de côté, tant et si bien qu'il va falloir attendre les recherches de Martin Conway, qui est un historien britannique, pour voir véritablement la thèse de doctorat qui fait définitivement autorité sur Léon de Crêle. Au fond, c'est quelqu'un qui est venu de l'étranger et qui a fait cette recherche-là.
Côté flamand, le premier à douloureusement remuer le couteau dans la plaie, c'est Maurice de Wilde, journaliste d'investigation, qui en 1982 va revenir sur cette histoire, sur ces tabous, en interrogeant certains témoins, presque comme un procureur à la télévision.
Een goedenavond, kijkers. 6 jaar geleden aanvaarden wij de opdracht een beeld op te hangen van hetgeen de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons land is geweest.
En sur le plan scientifique, c'est un certain Bruno de Wever, frère de Barthes, et donc lui aussi petit-fils de Léon, l'instituteur déchu, qui va publier en 1984 une thèse de doctorat qui fait toujours aujourd'hui autorité et qui démontre que le VNV était, dès sa création en 1933, un parti fasciste. Mais revenons au présent. On a pu voir ces dernières années encore que cette histoire n'est toujours pas pleinement digérée et suscite encore régulièrement des poussées de fièvre.
La Volksunie est au centre de l'actualité politique, mais cette fois pour un tout autre volet. L'un de ses ministres était présent samedi à une réunion d'anciens volontaires flamands qui ont combattu aux côtés de l'Allemagne nazie. Il a reconnu son erreur.
Démarrage compliqué pour le Premier ministre Charles Michel avec un brouhaha comme rarement vu ces dernières années à la Chambre. Vers 14h30, le nouveau Premier ministre s'apprêtait à démarrer sa déclaration de politique générale lorsque la chef de groupe PS, Laurette Onkelinx, a demandé la parole, demandant que sans attendre, Charles Michel s'exprime publiquement sur les affaires Yann Bonne et Franken. Les propos du premier sur la collaboration, la présence du deuxième à l'anniversaire d'un ancien collaborateur.
Je dirais que le bruit des bottes par ce biais résonne dans le gouvernement du pays.
Avec le CNIP.
Non, j'aurais pas. J'ai de la compréhension pour la collaboration dans son ensemble.
Ce photomontage a fait le tour de la toile. Une caricature de Théo Franken en uniforme nazi. Ce sont les jeunes décolos qui en sont les auteurs et ils ne le regrettent pas.
Est-ce que le respect mutuel permet de s'écouter ?
Ce qui éclaire le nationalisme flamand est, disons, la tendance majoritaire est de droite.
Marc Rénebeau.
Mais ce serait une erreur de dire que c'est fascisant ou que c'est d'extrême droite. Bien sûr, il y a le Vlaams Belang qui est extrémiste là-dessus, mais la tendance dominante dans le nationalisme flamand et certainement dans le mouvement flamand, est plus modérée. Et ça ne sert pas à grand-chose de faire cette réduction-là. C'est un Godwin à lui-même. Et surtout, il cache les ambiguïtés de l'histoire aussi du côté francophone. Et en même temps, ça ne rapporte rien ou ça ne sert pas la vigilance qui est nécessaire pour la discrimination, le racisme, qui est là aujourd'hui et qui a des sources modernes, actuels, qui n'ont rien à faire avec la collaboration. Donc, même du point de vue efficacité, ça ne sert à rien.
On ne voit pas, par exemple, du côté francophone, que du côté de la NVA, ben, par exemple, on a, je dirais, un discours beaucoup plus critique vis-à-vis de la collaboration. La ville d'Anvers est probablement une de celles qui a le plus investi en termes de recherche. Bardoever n'est pas historien pour rien, n'est pas non plus le frère de Bruno pour rien. Donc je crois qu'il y a là, effectivement, une volonté. Mais encore une fois, probablement que dans l'électorat, de la NVA, je dirais que cet aspect-là n'est peut-être pas un aspect qui est perçu. En tous les cas, ce n'est pas non plus un élément que le parti met sans cesse en avant. Il entretient probablement un flou sur ces questions lui-même. Du côté francophone, on n'a pas non plus envie de voir que la NVA peut-être a un discours beaucoup plus nuancé sur ces questions-là, parce qu'on a besoin de cet aiguillon pour stigmatiser, diaboliser l'autre.
Reste maintenant notre question de départ. Pourquoi, alors que le mouvement flamand semble avoir obtenu des victoires dans tous ses combats, sur la langue, sur les leviers économiques, avec un État fédéral qui donne beaucoup, beaucoup de pouvoir aux régions et une région flamande très florissante, pourquoi ce nationalisme flamand est-il toujours aussi fort aujourd'hui ?
Effectivement, la plupart des revendications du mouvement flamand ont été rencontrées et pourtant subsiste effectivement cette mentalité de victimes écrasantes aujourd'hui, on est presque tenté de dire. C'est-à-dire que cette mentalité, elle a donné lieu aujourd'hui à un comportement qui est plutôt un comportement de dominant, mais qui repose sur probablement l'héritage de cette culture, de cette identité sur laquelle s'est construite cette société flamande.
Et du côté des électeurs alors, comment expliquer qu'alors que les grandes manifestations populaires liées au mouvement flamand ont pratiquement disparu aujourd'hui, on se retrouve avec deux partis nationalistes indépendantistes qui additionnent ensemble 43% des voix. Réponse de Yann Segers, éditorialiste au L'Abstemius.
Ce qui est étrange et ce qui est remarquable, c'est que si on demande à des observateurs francophones de qualifier en un mot des partis comme la NVA et le Vlaams Belang, ils diront toujours nationalistes. Séparatistes. Si l'on demande aux moyens flamands, aux flamands moyens, de définir ces deux partis en un mot, probablement ils ne diront pas cela. Ils vont qualifier ces deux partis de droite, surtout. Question migration, intégration. Donc, je crois que la plupart des Flamands qui ont voté NVA ou Vlaams Belang n'ont pas voté pour le séparatisme, pour deux pays. Il y en a un, il y a une partie, mais pas la majorité, même pas l'NVA. Mais ont voté pour une approche, pour une politique plus sévère sur tout ça.
Une analyse partagé par le professeur de philosophie politique de l'ULB, Vincent de Corbitaire, pour qui c'est bien le fait d'avoir surfé sur les thématiques identitaires, sur les questions de migration, qui a installé les partis nationalistes du Nord au niveau où ils sont aujourd'hui.
Ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair. Et je pense que ça vaut pour l'NVA comme pour le Belang. On a très bien vu le bon effectué par le Vlaamsblok encore à l'époque, avant qu'il change de nom au fameux Dimanche Noir en 1991, c'était déjà préparé par des élections antérieures où, en commençant à travailler la question de l'immigration et de la sécurité, ce parti séparatiste ultranationaliste flamand acquiert d'un coup une audience électorale au-delà de 10% sur ces nouvelles thématiques. Donc il y a cette problématique-là qui a également été reprise à son compte par la NVA depuis un certain nombre d'années, avec une droitisation du discours, le fait que la Volksunie est éclatée et qu'elle ait donné naissance à travers son aile droite à la NVA a permis la libération d'une certaine parole ou la mise en évidence de certains enjeux qui n'étaient pas portés comme tels par la Volksunie, qui avait aussi une aile gauche. Et donc la NVA et le Vlaams Belang ne prospèrent pas que sur le nationalisme flamand.
Et puis, il y a aussi, comme un peu partout en Europe, le succès d'un discours populiste, anti-système, anti-élite, ce qu'a très très bien compris le Vlaams Belang.
Le vote Vlaams Belang a moins à voir avec une Flandre indépendante qu'avec une sorte de mécontentement général sur le travail accompli par les partis classiques, y inclut la NVA, qui est devenue, disons un peu, le nouveau CVP de la Flandre. Même impact, même approche, même façon de faire. Là, il y a un mécontentement général qui s'est traduit en un vote pour le Vlaams Belang.
Et donc, quand Bart De Wever, au début de cet épisode, additionne le soir du scrutin les pourcentages de vote NVA et de vote Vlaams Belang pour se poser en leader naturel de ce bloc des flamands nationalistes, il y a une part, vous l'admettrez, d'escroquerie intellectuelle. Et puis derrière tout cela, une question qui demeure. Si ces partis ne doivent que très peu leur succès à leur programme indépendantiste, y renonceront-ils pour autant à ce grand soir de la nation flamande si l'occasion se présentait? C'est une des questions sur laquelle nous reviendrons dans notre troisième épisode. C'était La Belgique en question, un docu-radio en trois épisodes, à la réalisation sonore Jérémy Van Belleghem, à la programmation musicale Laurent Grolus, une émission que vous pouvez retrouver 24 heures sur 24 sur RTBF Ovio et sur toutes les plateformes de téléchargement.